Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
RTL Matin, 7h47. Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin la ministre du Logement.
Bonjour Emmanuel Cosse.
Bonjour.
Ça fait donc un an tout juste que la loi sur l'encadrement des loyers est entrée en vigueur. C'était la mesure phare de la loi Allure, portée à l'époque par Cécile Duflot. Quel bilan est-ce que vous en tirez ?
Un bilan très positif. L'encadrement des loyers est entré en vigueur à Paris le 1er août 2015. On a vu que pour les nouveaux locataires, il y a plus de 30% d'entre eux qui ont bénéficié de baisses de loyers très fortes liées à cet encadrement des loyers.
Et très forte, c'est-à-dire ?
Très forte. Après, ça dépend du loyer que vous payez. Hein. Mais on était face depuis plus de 15 ans à une augmentation annuelle extrêmement importante sur les loyers parisiens, notamment les petites surfaces. Et on a vu des baisses considérables de 5 à 10%. Mais plus généralement, on a vu globalement les loyers se stabiliser à Paris, ce qui ne s'était pas observé depuis plus de 10 ans.
Ça n'est l'effet que de cette loi ou tout simplement peut-être d'un ralentissement de l'économie de l'immobilier ?
C'est un effet de l'observation des loyers et de l'encadrement des loyers. Pourquoi je vous dis cela ? Aujourd'hui, en France, il y a 25 territoires qui se sont dotés d'observatoires des loyers et qui donc peuvent dire, en gros, quel est le loyer pratiqué dans tel quartier ? Et on a vu que partout dans ces villes très tendues où l'observation des loyers se faisait donc de la transparence, immédiatement, les loyers décéléraient. Ça, c'est la première chose.
Parce que l'un des effets, c'est tout simplement qu'il y a de la transparence.
Il y a de la transparence. Aujourd'hui, vous pouvez savoir dans votre quartier à Paris quelle est la fourchette de loyer qui est pratiquée. Et donc, à Paris, on encadre, c'est-à-dire qu'on dit à un propriétaire, vous devez louer votre loyer dans un maximum de prix. Et on a vu que ça avait un effet très important. Ça doit aller plus loin. Ça a été montré cette année par plusieurs études d'associations, notamment de consommateurs, qu'il y avait encore des annonces immobilières qui ne respectent pas à Paris les fourchettes de loyer, qu'on pouvait faire mieux. Mais on se rend compte que cette mise en œuvre s'est quand même faite rapidement et que ça a plutôt très bien fonctionné.
Alors, on a entendu dans les journaux d'RTL ce matin des professionnels de l'immobilier pointer quand même quelques effets pervers. Par exemple, ils disent que c'est moins rentable de louer, donc les propriétaires font moins de travaux.
Vous savez, on a tout entendu quand la mesure est rentrée en vigueur. D'ailleurs, ces mêmes professionnels ont attaqué ces mesures devant la justice administrative. On dit qu'il n'y aurait plus de logements à louer, que ça allait être l'effondrement du marché. Je pense que toutes les personnes qui habitent à Paris se rendent compte que le marché locatif ne s'est pas du tout effondré, surtout que les logements n'ont pas été retirés du marché.
Ces témoignages ne traduisent pas une réalité ?
Exactement. Et surtout, je vais vous dire, ce que l'on voit surtout, c'est que des loyers trop chers entraînent des logements vacants plus longtemps. Parce que plus vous louez cher, plus les gens partent très très rapidement. Et on voit que ça amène des logements vacants. Et on a vu notamment des propriétaires dire qu'avec l'encadrement des loyers, ils avaient une légitimité à donner tel loyer à leur appartement et que ça avait pacifié des relations. Et
parce qu'on a entendu l'inverse ce matin sur RTL. On a des propriétaires qui disent au contraire, moi parce que c'est moins intéressant de louer, ben je ne loue plus.
Mais vous savez, quand on est propriétaire d'un bien, il faut le louer pour avoir un revenu locatif. Si votre bien est vacant, ça veut dire que vous pouvez vous permettre de ne pas percevoir un loyer, ce qui veut dire aussi que vous n'avez pas besoin de cet argent, et c'est très rare. Beaucoup de propriétaires ont investi dans un logement, se sont endettés, et ils ont besoin d'un revenu locatif pour le faire. Et puis, je le rappelle, à un moment, il faut aussi s'interroger sur quel est le sens de cette mesure. Cette mesure, elle redonne du pouvoir d'achat aux Français. Aujourd'hui à Paris, demain à Lille, dans deux ans dans l'ensemble de l'agglomération parisienne. Et c'est ça le but, c'est de remettre de la régulation dans un marché locatif, et je tiens à le redire, qui depuis 2000 a vu que les loyers ont plus que doublé. Est-ce qu'on peut imaginer que sur d'autres biens de consommation, on soit sur une telle augmentation des prix ? C'est ça qui s'est passé. Et c'est ce qui explique aussi que dans les grandes villes françaises, depuis 5 à 10 ans, on a des difficultés de location très fortes, au même moment qu'on observe parfois des baisses du marché, parce qu'il y a un marché à la baisse dans certaines villes.
Vous parlez des grandes villes françaises, vous parlez de Lille où la mesure entrera en vigueur. On parle de la région parisienne où la mesure va être étendue. Mais les autres villes ?
Les autres villes, aujourd'hui, ce sont elles qui décident ou non de s'engager dans cette démarche. Lille s'y est engagée il y a plus d'un an et l'encadrement des loyers sera effectif en décembre prochain. Grenoble a fait part de sa volonté d'encadrer les loyers et a commencé à observer ses loyers. Il lui faudra au moins un an et demi pour être prêt. Il
faut Mais bien pour vous, ministre du Logement, quelles sont les autres villes où les maires sont peut-être réticents et où cette mesure ferait sens ?
Mais la mesure peut faire sens et l'encadrement peut faire sens dans les marchés tendus. dans les zones très tendues où le marché locatif,
mais par exemple,
où le marché locatif est tendu.
Mais par exemple, vous ne voulez pas citer de ville.
Si, on peut les citer. Mais moi, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. Moi,
non, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'informer les Français.
Justement, je vous explique. Sur l'encadrement des loyers, on a voulu réduire cela à l'encadrement. La grande nouveauté, c'est d'avoir de la transparence dans les données. Nous avons enfin, dans plus de 25 agglomérations, des données locatives publiques. Vous pouvez aller sur le site internet de l'ADIL, de l'Agence nationale d'information sur le logement, où vous avez les informations sur l'ensemble des observatoires des loyers. Pendant des années, ces données étaient privées. Nous n'y avions pas accès. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, et c'est le sens aussi de cet anniversaire des mesures d'encadrement des loyers, nous ouvrons ce matin un site internet qui s'appelle encadrementdesloyers.gouv.fr, où on donne des informations à l'ensemble des particuliers, d'une part sur les niveaux de loyer, ensuite sur les recours auxquels on peut procéder si on n'est pas dans... Enfin, le propriétaire ne respecte pas la loi. Et moi, je le dis, on ne va pas faire les choses contre l'avis des agglomérations et des communes. Une démarche autoritaire ne fonctionnerait pas. On a, par exemple, je peux vous donner des exemples, puisque j'ai réuni l'ensemble des observatoires des lois il y a quelques mois, des villes qui ont observé pendant un an et qui maintenant se disent... Est-ce qu'on se lance ou pas dans l'encadrement des loyers ? Regardons quel est l'impact, y compris avec les professionnels, parce qu'il n'y a pas que des professionnels qui sont opposés à cette mesure.
Donc vous pensez que le bilan que vous dressez ce matin pourrait inciter d'autres maires qui jusqu'ici étaient plutôt réticents à adopter l'encadrement des loyers ?
Tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui sont réticents à cette mesure par nature, parce qu'ils voient l'impact positif sur leur ville. Mais après, on regarde, est-ce que ça marche ? Est-ce que, par exemple, dans des villes où les petites surfaces, notamment pour loger des étudiants, sont très chères parce qu'il y a un turnover très rapide, il y a des petites villes qui se posent la question de mettre en place un encadrement des loyers. Mais il faut aussi que ça vienne des territoires, parce que sinon l'adhésion ne pourra pas fonctionner.
Alors, autre sujet, Emmanuel Cosse, les suites de l'attentat de Nice. On assiste à cette polémique entre le ministre Bernard Cazeneuve et Christian Estrosi. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, vous savez, moi, j'ai été très choquée le lendemain même des attentats du ton très, très polémique, justement, qui avait été adopté, notamment par Christian Estrosi, mais pas que. Et du premier week-end, on était encore sous le choc de cet attentat et en se posant des questions qui sont tout à fait légitimes. Et des attaques très fortes contre le gouvernement et une mise en cause très forte du ministre de l'Intérieur. Mais là, on est au-delà de la polémique. Hein. Sincèrement, quand vous avez une employée qui met en cause et qui laisse entendre que quelqu'un du ministère de l'Intérieur aurait voulu influer sur des rapports d'information, c'est très grave. C'est très grave ce qui a été fait et ce qui a été dit dimanche. Ça explique aussi, me semble-t-il, la réponse très ferme de Bernard Cazeneuve et le fait qu'il ait déposé plainte hier. On peut dire, et c'est normal qu'il n'y a pas de place pour la polémique, sauf que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui jouent à ça. Et c'est vrai que moi, je préfère qu'on se concentre sur deux sujets. D'une part, comment est-ce qu'on accompagne les victimes, les proches et toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces attentats, et il y en a depuis plusieurs centaines. Ensuite, comment on apporte des réponses aux Français sur comment est-ce qu'on vit avec cette menace permanente ? Comment est-ce qu'on y répond ? Il y a des réponses sécuritaires, il y a aussi des réponses, je pense, d'attention de la société. Parce que ce qu'on rencontre aujourd'hui, on a vu aussi ce qui se passe en Allemagne, qu'il y a aussi aujourd'hui une pression forte sur notre pays et que ce n'est pas simplement qu'une réponse sécuritaire. C'est comment on se mobilise tous sur ces sujets-là et avec une attention particulière pour, en tout cas, être en alerte et enfin, rester unis.
Vous avez, vous, toujours exprimé des réserves sur les risques de prolongation de l'état d'urgence. Or, nous n'en sortons pas.
Mais nous ne sortons pas parce que nous sommes dans une difficulté très importante. C'est que quand est-ce que l'on doit l'arrêter et en fonction de quelle situation ?
Cette prolongation de l'état d'urgence, vous n'y étiez pas au départ favorable ?
Non, mais je n'étais pas non plus hostile pour tout vous dire. Moi, j'ai assisté à l'Assemblée nationale et au Sénat cette dernière semaine à pas mal de questions au gouvernement où droite et gauche se disait, et y compris, je me rappelle, le président de la commission des lois du Sénat, qui est républicain, qui disait qu'on pouvait sortir de l'état d'urgence. Il y a eu cet attentat le 14 juillet et donc une volonté partagée d'ailleurs à gauche et à droite de le prolonger aussi pour se dire qu'on se donne les moyens. Mais le président de la République l'a redit très clairement et aussi le Premier ministre, l'état d'urgence ne peut pas être un état permanent. Et c'est pour ça que...
Or, pour l'instant, il l'est depuis...
Il l'est depuis le 13 novembre. Mais et si nous n'avions pas été en état d'urgence à cette période ? Qu'est-ce que vous auriez dit ? Pourquoi nous n'y sommes pas ? Je pense qu'il faut être très, très lucide sur cette question-là. Et surtout, là, l'état d'urgence a été prolongé pour 6 mois. dans les débats parlementaires, beaucoup ont dit qu'il fallait très clairement en sortir in fine. C'est aussi pour ça que la loi de procédure pénale a été modifiée pour donner des moyens supplémentaires d'enquête. Mais c'est vrai aussi qu'il va falloir malheureusement vivre avec cette normalité. Je crois que le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, cette normalité des attaques dans lesquelles nous pouvons être victimes. Et donc, ce qui veut dire aussi que c'est aussi une nouvelle vie qui existe pour nous, mais je pense aussi au niveau européen. Et moi, par exemple, personnellement, j'ai 40 ans et je me pose des questions aujourd'hui sur cette société. Parce qu'en fait, on a quand même eu une vie assez bénie du côté des attaques, de la guerre et tout ça. Et c'est vrai que quand on voit les attaques simultanées en France, en Angleterre par le passé, en Allemagne, on peut aussi s'interroger sur ce que va être notre société et notre vie dans cette Europe dans les années qui viennent.
Une société malade ?
Je ne dirais pas une société malade, en tout cas une société qui veut défendre un certain nombre de valeurs, et c'est ce qui explique que la France soit engagée sur le terrain d'opérations, notamment en Afrique, et y compris nous sommes intervenus, il faut se rappeler que nous sommes intervenus tout seuls au Mali, parce qu'on avait y compris une demande très forte d'y ramener une sécurité très importante, mais ça veut dire aussi qu'on doit assumer ce rôle-là, et qu'aujourd'hui, des personnes veulent nous attaquer pour ce que nous sommes. Moi, je tiens à le redire, une société qui est forte, qui est multiculturelle, qui vit avec des personnes qui sont avec une religion ou pas. Et c'est ça notre force, cette diversité. Et c'est pour ça que cette polémique actuelle sur Nice me fait tant de mal. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait important, c'est qu'on puisse montrer qu'on est unis, qu'on est avec l'ensemble des victimes de Nice, comme celle du mois de novembre dernier, comme celle de Charlie, et que l'on est très fiers de cette société française qui nous permet de vivre ensemble en étant divers.
Merci Emmanuel Coste d'avoir été l'invité de RTL ce matin.